Être un chef d'entreprise responsable, c'est prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, j'ai décidé, après mes réflexions, d'agrandir notre logo sur les factures de l'entreprise.
Ça, c'est une décision qui ne servira pas à grand-chose. Les bonnes décisions pour votre entreprise sont chez Volvo. Avec la berline Volvo S60 Drive ID de gamme business tout équipée, qui ne rejette que 114 grammes de CO2 par kilomètre avec une consommation de 4,3 litres au 100. Offre réservée aux professionnels. En savoir plus sur volvo-entreprise.com. Volvo Automobile Entreprise. La relation longue durée.
Quand vous écoutez Bichente Lissarassou en podcast, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. 20h-21h sur RTL.
Le Club Lisa. Bichente Lissarassou et Sylvain Charlet.
Avec Parion Sport.
FTJ.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Lisa sur RTL pendant une heure. On va commenter l'actualité foot avec au programme ce soir Ligue des Champions, demi-finale retour explosive, Barcelone, Chelsea demain au New Camp et Real Bayern mercredi à Santiago Bernabéu. On va débriefer le Classico aussi de samedi soir, la victoire du Real 2-1 à Barcelone. On va prendre la température des Bleus à 2 mois de l'Euro, notamment la défense qui nous inquiète. Et puis, on va recevoir le big boss des Girondins de Bordeaux, Nicolas de Taverneau, président d'M6 et propriétaire des Girondins de Bordeaux. Sans oublier le top d'éclat de la semaine et le Lisaping. Bonsoir Sylvain Charlier, bonsoir Cyprien Sini.
Bonsoir à tous.
Bonsoir Bichène.
Sylvain, la suite du programme.
Non mais tu as tout dit. Tu as tout dit.
Maintenant, ça y est, j'ai dit tout à chaque fois. J'ai plus besoin de tonnette, c'est ça ?
Chaque semaine, je contrôle et désormais, je me tais. Je dis bonsoir et je m'incline.
Cyprien, qu'as-tu prévu dans ta semaine ?
Eh bien, dans notre semaine, on va voir que Didier Deschamps a peut-être livré le secret de ses défaites en cascade. Ça promet, puis il y aura un portrait de Nicolas de Taverneau, remarquable négociateur.
Club Lisa, 20h, 21h. 21h, on refait le match avec Eugène Sacomano. 22h, on joue le match avec Christophe Paco. C'est parti.
En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
L'invité du Club Lisa.
Nicolas de Taverneau, président de M6 et administrateur des Girondins de Bordeaux, est notre invité dans le Club Lisa. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Vous êtes à la maison ici. On peut dire
un
ça.
Un petit peu, oui,
Vous faites partie du même groupe M6,
oui, oui,
RTL.
Absolument. On a beaucoup de plaisir à y être.
On va parler, avant de parler des Girondins, de la Champions League, puisqu'on a deux affiches énormes entre le Barça et Chelsea, et puis ensuite le Real Bayern. Sylvain, est-ce qu'on va retrouver nos spécialistes ?
Ils sont là. On va prendre la direction de Barcelone. Frédéric Traini est avec nous. Salut Frédéric.
Bonsoir à tous.
Et Julien Laurence également est avec nous depuis Londres. Salut Julien.
Bonsoir messieurs.
Salut les gars.
Alors Frédéric est déjà dans l'ambiance de la conférence de presse. On va y revenir dans un instant puisque Guardiola s'est exprimé. Bichène, on y revient dans quelques secondes.
Alors Nicolas, un petit mot d'abord. Votre favori ?
Madrid.
Madrid ?
Oui.
Va gagner la Ligue des Champions après avoir quasiment gagné le titre en Espagne ?
Je crois que c'est leur tour.
Ah oui?
Voilà, parce que je trouve que Ronaldo est particulièrement en forme. C'est mon pronostic.
Vous pensez que c'est la fin d'un cycle pour le Barça?
Non. Mais c'est les deux meilleures équipes aujourd'hui. En tous les cas, moi je ne suis pas un spécialiste, mais quand je les vois jouer, je suis allé voir des matchs, puisque je vais souvent en Espagne. Ils m'impressionnent beaucoup. S'ils arrivent un peu à pallier, ils ont un problème de défense, mais qu'ils ont quand même partiellement résolu. Donc voilà, moi je le vois bien gagnant cette année. Il faut en profiter, hein, parce que c'est la dernière année qu'on voit la Champions League gratuite en France. Hein. Après, alors, vous pourrez voir...
Ça serait un autre débat, on pourrait faire une émission spéciale là-dessus.
Non, mais il faut en profiter pour regarder. Vous verrez l'Europa League l'année prochaine, et puis il y aura des grands clubs français en Europa League.
Alors, ça devrait devenir une priorité pour nos clubs français, à la fois et également sportivement parlant. On va y revenir dans un instant.
Allez, Fred Traini, Julien Laurence, comment ça s'est passé, les conférences de presse ?
Fred, alors, comment va Pep Guardiola ?
La conf de Guardiola, il n'est pas encore terminé. J'ai donc pu assister aux 20 premières minutes. Il a l'air assez serein, un peu fatigué quand même. Il faut dire que la défaite contre le Real Madrid dans ce Clasico a certainement laissé des traces. Exemple, hier, lors du décrassage, on l'a su qu'aujourd'hui, en fait, mais Lionel Messi n'était pas présent. Il a téléphoné depuis chez lui pour dire qu'il ne se sentait pas bien et qu'il préférait rester à la maison. Et donc, les médecins lui ont conseillé, effectivement, de se reposer. Mais aujourd'hui, donc évidemment, on guettait son entrée sur le terrain. Il est rentré normalement. On a dû quand même poireauter 25 minutes parce qu'il y a eu une causerie de Guardiola. C'est complètement inhabituel, une réunion de 25 minutes dans les vestiaires. Certainement, parce que cette équipe a peut-être besoin d'avoir un petit speech pour travailler le mental des joueurs. En tout cas, Guardiola n'a pas cette habitude de faire des causeries aussi longues. Et enfin, on a vu Lionel Messi entrer. Guardiola nous a confirmé qu'il allait bien. Donc, Messi sera présent demain.
Oh, le doute. Ah. Le doute s'est immiscé dans les têtes barcelonaises.
Messi, ça fait deux matchs où il est moins bon que d'habitude.
Oui, ça va. Ce ne sont que deux matchs. Oh, d'accord. Ce ne sont pas n'importe quel match. Mais bon.
L'une des grandes questions aussi en défense, est-ce que Piqué sera dans le 11 titulaire? Parce que la défense a pas mal souffert contre le Real et notamment par manque de taille, avec Adriano, notamment, avec Mascherano, par exemple. Est-ce que Piqué sera titulaire ou pas?
Alors,
ou il est toujours puni?
C'est le grand feuilleton, c'est le grand feuilleton à Barcelone. Effectivement, mais aujourd'hui, c'est lui qui est passé en conférence de presse pour écarter tous les doutes. Vraisemblablement, il sera de retour demain. En tout cas, on l'a vu très détendu, Gérard Piqué, pour parler de sa réunion. Il a été convoqué vendredi dans le bureau de Pep Guardiola. C'était pour parler de tout et de rien. Il dit, tout va bien. Oui, c'est vrai que Pep Guardiola m'engueule, mais il le fait depuis toujours et ça, j'aime bien. Donc, voilà, Gérard Piqué, très détendu, hein, qui plaisantait avec les journalistes anglais, qui plaisantait sur les tweets de rouler contre Drogba, qu'il a défendu d'ailleurs.
On lui reproche de se disperser un peu avec sa compagne,
évidemment,
notamment.
Évidemment, mais
les jets privés, les soirées.
C'est ça.
Il est amoureux.
C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit en Espagne. Tu confirmes?
Oui, effectivement, on peut pas être amoureux de Shakira et ne pas avoir une vie un peu spéciale. C'est vrai qu'effectivement, il prend des jets privés pour la voir en concert à l'étranger. On l'a vu faire des sports à haut risque sans casque, du rafting. Et puis, on l'a vu ça sur Twitter. Le bateau s'est renversé. On a vu Piqué faire beaucoup de choses qui ne sont pas permises aux autres joueurs.
Et ça fatigue des bestioles comme ça.
Ouais, non, mais c'est vrai qu'on l'aime bien quand même en même temps Piqué ici. C'est tellement, il a tellement l'ADN Barça. Depuis, il l'a rappelé aujourd'hui, hein, il s'est quand même défendu en disant si je suis titulaire, ben très bien, mais si demain je ne suis pas là, je veux quand même que ce soit ce Barça-là qui gagne parce que mon grand-père m'a acheté la carte de sociaux et son grand-père, qui est toujours dirigeant du Barça d'ailleurs, qui l'était déjà sous la présidence de Núñez il y a quelques années et qui l'est toujours avec la présidence de Sandro Rosell actuellement. Donc voilà, je veux dire, Piqué, c'est l'ADN Barça, et demain il sera sur le terrain, vraisemblablement, si c'est Drogba, ça je ne sais pas encore, qui sera sur le terrain.
Mais on va poser la question.
Au niveau offensif, une dernière question au niveau offensif, Thiago Alcantara, Tello, ça n'a pas été forcément une réussite, est-ce qu'il va y avoir du changement au niveau offensif du côté du Barça?
Il y aura du changement, alors lequel, Pep Guardiola, vous le connaissez, on ne peut jamais deviner ses choix tactiques. Celui contre le Real Madrid a surpris tout le monde et il n'a pas fonctionné énormément. C'est vrai que l'entrée de Sanchez est arrivée tardivement. Du coup, Messi s'est retrouvé exposé au marquage des défenseurs centraux, Ramos et Pepe, beaucoup trop, et Messi n'était plus Messi peut-être à cause de ça. Donc forcément, demain, il y aura des changements. On pense que Cesc va revenir Fabregas. On va revenir dans le 11 titulaire. Piqué également. On devrait débuter avec une défense à 4 au départ. Alves, Piqué, Mascherano, Puyol, très vraisemblablement. Xavi, Busquets, Iniesta au milieu avec Cesc en point du losange. Et puis évidemment Messi, Alexis et Messi plutôt, Messi dans l'axe. Ça devrait être ça le 11, mais il peut y avoir des surprises.
Julien Laurence, des nouvelles de Chelsea? Ils ont pu faire tourner leur équipe en championnat, donc ils sont frais.
Ça,
Didier Drogba devrait être à la pointe de l'attaque.
Voilà, exactement. Tu as tout dit, Bichène. 8 changements.
Salut, hein, Julien.
Salut à tous.
Non, je voulais te dire au revoir puisque Bichène t'a tout dit.
Oui.
On est fait tomber. Je suis complètement tombé à plat. Vas-y, enchaîne.
Je sors. Quelques précisions. Oui, effectivement, 8 changements par rapport à l'équipe qui avait battu Barcelone pour jouer samedi contre Arsenal avec un match nul au bout 0-0. Et puis, Didier Drogba, bien sûr, c'est la grosse interrogation. Il s'est entraîné ce soir au Camp Nou. Il a montré visiblement aucun problème avec son genou qui était, selon Roberto Di Matteo, blessé, et donc il devrait être titulaire demain sans aucun souci.
Mais peut-on défendre...
Pardon, excusez-moi.
Oui, Fred.
Juste la permission de repartir voir la conférence de presse.
Oui, on te la donne.
Dernier détail. Titi Henry était présent ce soir au bord du terrain pour voir ses ex-coéquipiers s'entraîner. Il était également là pour visiter Eric Abidal, qui est donc toujours en convalescence à l'hôpital clinique de Barcelone, après sa grève du froid d'il y a une dizaine de jours.
Bonne fin de conférence de presse de Pep Guardiola à Barcelone. Salut Fred.
Merci, salut à vous.
Julien, ils y croient? Ils y croient, les joueurs de Chelsea? Ils pensent qu'ils vont être capables de faire un deuxième hold-up?
Ouais, ils y croient beaucoup. Effectivement, ils y croient beaucoup. Ils avaient dit avant le match aller qu'il fallait faire deux matchs parfaits de toute façon. Mais ils en sont à la moitié du chemin. Ils ont fait un match parfait.
Je dis hold up parce qu'ils ont une occasion et un but.
Eh oui, c'est vrai. Et puis, mais je pense que dans ces matchs-là, il faut de toute façon être extrêmement efficaces. Ils l'ont été, un tir cadré, un but. Il faut être extrêmement chanceux. Ils l'ont été aussi, puisque le Barça a notamment frappé deux fois.
C'est la règle.
Mais c'est ça, un match parfait aussi, je pense, c'est d'avoir un peu tout ça. Et ils espèrent avoir la même chose demain au Camp Nou.
Nicolas, vous pensez que le Barça va s'imposer?
Bon, écoutez, moi j'ai vu le match aller, voilà, logiquement, c'est quand même un mini hold-up, hein, donc à mon avis, demain, on verra le Barça.
Le Barça qui devrait s'imposer selon Nicolas de Taverneau. Alors, on fait une petite pause et on va retrouver Julien dans un instant et on va parler de la deuxième demi-finale qui aura lieu mercredi soir entre le Real Madrid et le Bayern Munich.
Celle-là, elle va être chaude.
On rappelle que le Bayern s'est imposé sur le score de 2-1. Le Club Lisa, c'est tous les lundis jusqu'à 21h. À tout de suite.
Vicente Lissarassi et Sylvain Charlet.
Le Club Lisa jusqu'à 21h sur RTL.
Allez, on va parler de la deuxième affiche de cette Ligue des Champions au Real de Madrid-Bayern et on va recevoir nos spécialistes. Alors, il y en a un, on le connaît bien, c'est Alexis Menuch, le spécialiste de l'Allemagne et du Bayern.
Oh là là.
Et il y a un nouveau spécialiste qui était le spécialiste de l'OM, mais je ne sais pas pourquoi il ne veut plus être spécialiste de l'OM. Devenu le spécialiste du Real Madrid et c'est Cyprien Cini.
Là, on s'adapte. Hein.
Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Alexis.
Bonsoir à tous. Salut, Bichent.
Allez, on commence par le Bayern.
C'est bon signe.
Parce que j'ai Cyprien à côté, donc allez, le Bayern.
Le Bayern, un peu comme Chelsea, a fait tourner. Donc là, ce sera peut-être aussi une arme intéressante avant de.
Le Bayern a fait tourner, mais il y a eu des étincelles dans le vestiaire du Bayern.
Oui, ça, c'était il y a déjà une semaine. C'est oublié.
Ça y est, c'est réglé.
Non, mais on a les détails. On sait qui a frappé qui.
Oh, on sait qui a gagné ou pas.
Il y a eu des coups échangés, mais c'est vrai que le plus spectaculaire, puisqu'on voit les traces maintenant, c'est le coup infligé par le Français au Néerlandais.
Donc c'est Ribéry qui a gagné.
Le Français au Néerlandais.
Et puis, vous aviez vu sans doute samedi que Franck Ribéry a fait un gros match, qu'il a marqué la dernière minute et qu'il est allé surtout fêter son but. Ça, c'était, connaissant le personnage, c'était logique. Elle est allée fêter son but en allant voir Ryan Robben, qui était lui sur le banc des remplaçants, qui n'est pas entré en jeu. Donc voilà, a priori, c'est clos. Mais enfin, imaginez qu'il se fasse éliminer mercredi soir à la dernière minute et que Robben loupe une occasion parce qu'il a encore été trop individualiste. Là, ça pourrait encore se corser.
Ça peut mal se terminer. Non, mais c'est assez incroyable, quand même, ce comportement.
Mais c'est la raison de leur embrouille, c'est l'individualisme de Robben, c'est ça?
Oui, c'est l'ego surdimensionné, même si, vous vous rappelez, messieurs, et notamment Sylvain, on avait vu sur ce coup franc, fameux coup franc, dans le temps additionnel de la première période que les deux hommes s'étaient disputés. C'était spectaculaire. Schweinsteiger est intervenu, puis Philippe Lahm, mais c'était assez chaud entre les deux hommes. En fait, Robben voulait laisser tirer Toni Kroos et alors que Ribéry lui voulait tirer et Ribéry n'a pas compris pourquoi Robben se mêle de cette chose-là.
Au niveau de l'équipe type, Alexis, du changement ou
non, ce sera la même normalement
avec Schweinsteiger qui sera
la
là.
La même équipe que mardi dernier avec Schweinsteiger comme milieu défensif, Schweini qui a enfin joué un match en entier samedi à Brême et ça s'est plutôt bien passé.
Cyprien Signe, notre spécialiste du Real Madrid.
Il y a pas de problème.
Du Real Madrid.
Pas de problème au Real Madrid, on est encore dans la joie et l'allégresse de la victoire dans le Classico ce week-end.
Attention, au retour de
il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient Plaza des Cibeles à Madrid pour accueillir les
héros. Que tu connais bien la Plaza des Cibeles.
Évidemment, je suis allé en vacances. Et donc, il y avait une certaine folie autour du Real Madrid. A priori, ça sera la même équipe. Il n'y a pas de changement attendu, si ce n'est Granero qui viendra en conférence de presse demain avec Mourinho. C'est assez étonnant comme choix parce que c'est un milieu de terrain qui n'est pas toujours titulaire. Donc, peut-être qu'il va jouer. Peut-être que du coup, Mourinho mettra un milieu à trois. Et attention, quatre joueurs menacés de suspension pour la finale en cas de carton jaune. Sergio Ramos, Cuentrao, Xabi Alonso et Gonzalo Higuain, peut jouer.
Ouais, ça peut jouer parce qu'ils sont très nerveux quand même.
Nicolas de Taverneau est pro-Real, il sent le Real sur cette compétition. Toi, Bichène, tu es plutôt Bayern.
Non, moi je pense
que ça.
Non, mais je pense qu'il peut y avoir un retour de flamme. T'as l'euphorie en effet du titre et d'avoir gagné le Classico. Je crois que c'est la deuxième fois en 10 confrontations que le Real arrive à gagner contre le Barça, donc une espèce d'euphorie.
Avec
simplement.
Grand Cristiano Ronaldo.
Je pense que le Bayern a des armes offensives pour aller marquer là-bas. Et ça sera ça la clé. Et la deuxième clé, à mon avis, ça sera l'intensité physique et l'agressivité dans les duels. Et de ce point de vue-là, je pense que les Allemands ont plus de sang-froid que les Espagnols. Parce que ce soit contre le Barça ou au match aller, j'ai senti pas mal de fébrilité quand même du côté du Real, même si en ce moment ils sont un peu euphoriques.
Nicolas, vous avez le droit de répliquer à Vicente Lissarazu.
Ah, mais non, mais il a 13 ans. Hein. Moi, je me souviens simplement qu'à Bordeaux, on a battu le Bayern une fois en Champions League. Et qu'on n'a jamais eu, malheureusement, eu l'occasion de battre Madrid.
Et c'est l'année où le Bayern derrière va en finale, en fait, plus.
Absolument.
Bordeaux fait un super parcours en phase de poule et derrière termine en quart de finale face à l'Olympique Lyonnais. Allez, on va se retrouver dans un instant avec Nicolas de Taverneau, le président du directoire d'M6, également administrateur des Girondins de Bordeaux. On va saluer Alexis Menuch. Salut Alexis.
Bonsoir messieurs, bonne émission.
À mercredi.
Ciao,
pour
Alexis.
Ce Real Bayern.
À mercredi.
Et bonjour, puis Julien Laurence, on va le retrouver tout à l'heure puisqu'on va reparler des internationaux français de Première Ligue, Abou Diaby et Atem Ben Arfa, qui pourraient, pourquoi pas, être les surprises de la liste de Laurent Blanc en vue de l'Euro 2008. Dans un instant, Nicolas de Taverneau pour parler des Girondins de Bordeaux avec un ancien des Girondins, Vicente Lizarazu.
Vous écoutez RTL en podcast. Vicente Lizarazu,
Sylvain Charlet,
le Club Lisa sur RTL.
Nicolas de Taverneau est notre invité dans le Club Lisa. Nicolas, j'ai dit tout à l'heure, vous étiez propriétaire des Girondins, mais vous êtes propriétaire... Oui, via M6. Ok, via M6.
Heureusement pour moi. Oui.
Mais propriétaire à 99,76%. Qui sont les autres actionnaires?
Légalement, les administrateurs doivent être propriétaires de quelques actions. Voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas 100%. Mais enfin, le groupe M6 est propriétaire de 100% depuis 11 ans.
D'accord. Allez, on vous a réservé une petite surprise, c'est le portrait de Cyprien Signy.
Nicolas Taverneau, bonsoir.
Bonsoir.
Nicolas Taverneau.
Il a la trouille.
Non.
Le bonsoir, tout d'un coup. Il était tout guiré, là, tout d'un coup, il s'est... Hein,
c'est ce bonsoir qui m'a fait peur.
Le blanc, en radio.
Donc, Nicolas Taverneau, l'homme à qui on a autant envie de demander s'il va y avoir une nouvelle saison de Top Chef ou si Bordeaux va enfin recruter un bon attaquant. Une double casquette de président d'M6 et de patron des Girondins qui doit, par exemple, vous obliger à discuter d'écho avec Valérie Damido lundi avant de vous payer une bonne tranche de rigolade avec ce bout en train de Francis Gillot le mardi. Ça fait rêver. Mais Nicolas Taverneau, vous n'avez pas toujours cette double casquette. Début professionnel dans les bureaux feutrés des ministères, commerce extérieur et PTT, puis 86, Jérôme Monod, alors patron de la Lyonnaise des Eaux, vous confie le dossier de la 6ème chaîne. Vous allez chercher le regretté Jean Drucker, avec qui vous formerez une équipe de choc, et le 1er mars 87, 11h15, au 3ème étage de l'immeuble dans lequel nous sommes, 22 rue Bayard, Jean Drucker apparaît sur le canal 6 de nos téléviseurs.
Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Comme vous voyez, nous ne vous cachons rien des derniers préparatifs. Et maintenant, si vous en êtes d'accord, que la fête commence.
Ah, ce générique. Et au début, comme dans toutes les bonnes fêtes qui se respectent, de la musique, beaucoup de musique. Et pour ouvrir le bal, pour l'anecdote, premier clip lancé sur M6 ce 1er mars 87 à 11h19 précise.
Top 50.
Ah ouais, laissez-nous chanter de Gold. Et oui, à l'époque, c'était un tube. Mais pas le temps de vous trémousser en coulisses, Nicolas de Taverneau. La chaîne perd 1 million par jour. Un peu comme les Girondins, en fait. Heureusement, avec un homme comme vous à sa tête, pas de soucis à se faire. Les affaires, ça vous connaît. Je rappelle que vous êtes l'homme qui a réussi à vendre à Jean-Michel Aulas Johan Gourcuff pour 22 millions d'euros sans les bonus. Moi, j'appelle ça le casse du siècle. Et même vous, après la vente, vous étiez assez content de votre coup.
Nicolas,
je pense que Bordeaux fait une bonne affaire. On nous avait dit à l'époque, souvenez-vous, mais vous n'êtes pas dans le marché, les transferts, etc.
Et vous l'avez fait quand même.
Une réponse?
Bah écoutez, à l'époque, Lyon le voulait, mais nous, on ne le voulait plus. Donc, il y a eu. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais c'est un bon joueur et j'espère qu'il reviendra. D'autant plus qu'on a encore 20% du transfert. Mais c'est un très bon joueur, très sympathique. Et en tous les cas, il a fait de très bonne saison. Moi, je garde un très bon souvenir de Johan.
Et oui, parce qu'en fait, là où vous étiez un peu planté, si on peut dire, on peut pas tout prévoir, c'est sur les bonus, car après la vente, vous aviez expliqué le détail.
Le transfert, il y a une partie de 22 millions d'euros fixe, plus une partie non pas sur la plus-value, mais sur la revente du joueur par l'Olympique Lyonnais. Si le joueur est revendu 15 millions d'euros, Bordeaux touchera 20% de cette somme-là.
Voilà, mais 20% de zéro, c'est pas terrible, et puisqu'a priori, il vaut plus très cher, Johan Gourcuff, ça va être compliqué de récupérer de l'argent. Nicolas de Taverneau, remarquable négociateur, donc, et une capacité à bien sentir les coups qui accompagne, il en faut, d'une once de chance. Je m'explique. Vous êtes très discret sur votre vie privée. Je parlerai donc pas de votre swing dévastateur au golf ou de votre amour pour l'opéra. En revanche, je crois savoir que dans les couloirs de votre domicile parisien, vous avez un voisin qui, parfois, est assez bruyant, surtout quand il rigole. Eh oui, c'est l'air de Thierry Roland, qui habite dans le même immeuble que vous, ça doit être pénible parfois. Et la légende dit qu'un jour, vous croisez dans le hall son fils Gary et vous lui dites « Dis à ton père de m'appeler ». Et là, Thierry Roland débarque sur M6, fallait oser. D'ailleurs, avec les droits de l'Euro 2012 qui ont mis du temps à se négocier, vous lui avez fait une belle frayeur à notre Thierry National. Écoutez-le quand il a appris que vous aviez enfin les droits de l'Euro.
Ouh là là, ouf. Parce que à 2 mois du début de la compétition, on n'avait toujours pas de réponse. Enfin, en tout cas, tout est bien qui finit bien.
Bah ouais, faut plus faire
des coups. C'était pareil à TF1.
Bref, avec Thierry, vous avez fait du neuf avec du plus très jeune, mais vous savez aussi innover, c'est même une marque de fabrique. Filmer des gens en train de s'inviter à dîner ou faire la cuisine, fallait y penser. Suivre des gars qui cherchent un appart et qui veulent vendre leur maison, soit un succès improbable, pareil, fallait oser, sans oublier.
11 célibataires coupés du monde, filmés dans un loft de 225 mètres carrés, 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 micros.
Le loft des millions de téléspectateurs et TF1 qui se fait griller. Patrick Lelay, patron de TF1 de l'époque, vous aurez envoyé ce texto, un peu style cow-boy. Vous allez vous retrouver dans du béton au fond de la Seine, c'est vrai ?
Bon, écoutez, il y a prescription.
C'est vrai.
Sympa le bord d'Oraine et tout. Enfin, ouais. Enfin, Nicolas Taverneau, certains vous disent froid, distant et implacable. D'autres parlent de votre fidélité, de votre drôlerie et d'un rire tonitruant. Oui, c'est ça le propre des hommes de pouvoir. Difficile de percer le secret de votre vraie personnalité. Alors parfois, mieux vaut se contenter des fondamentaux. Alors, Top Chef, ça revient l'année prochaine ?
Oui.
Ah ben voilà,
le plan Visa sur RTL.
Avec Vicente Lizarazu et Sylvain Charlet.
Nicolas, on va parler un petit peu de foot. Les Girondins, 8e du classement. L'objectif, c'est 6e, c'est important pour le club ?
Je ne sais pas si c'est 6e. C'est une saison très énervante, qui a mal démarré, on s'est pris les pieds dans le tapis. Voilà, on a eu les grands rendez-vous plutôt au marché. Et là où on aurait dû gagner des points, ça a été une catastrophe. Donc, c'est pas une bonne saison. La place de 8e, ça sera, j'espère, un peu mieux. Ça sera peut-être la place de 7e, mais il y a un break hein, entre les 6e, 7e, 8e. En tous les cas, on sera probablement pas européen, et donc ça, c'est pas une bonne nouvelle.
Saint-Etienne, 53 points. Toulouse, 53 points. Et donc Bordeaux, en effet, 46 points. Donc il faudrait un sans faute, avec dans le même temps des échecs consécutifs des autres clubs, Bichente.
Bordeaux était en Ligue des Champions, on a parlé de la Ligue des Champions tout à l'heure, était en Ligue des Champions il n'y a pas si longtemps, notamment avec Laurent Blanc. Ça vous manque, la Ligue des Champions ?
Oui. Moi, j'ai connu 3 saisons en Ligue des Champions, hein, depuis qu'on est là. Il y avait des saisons où on avait débuté. Je me souviens, à Chelsea, on en a pris 4.
Ouais, ouais.
Voilà.
Ça, c'était l'apprentissage.
Voilà, on a progressé l'année suivante. Oui, ça nous manque. Ça nous manque à double titre. D'abord, parce que c'est une très belle compétition sportive. Et puis, la deuxième chose, c'est que ça nous manque pour maintenir une équipe de très haut niveau, grâce aux recettes de la Champions League, qui vont d'ailleurs fortement croître hein, pour les clubs français. Puisque la Champions League, avec l'arrivée d'Algésira, les droits ont monté. Et donc, on va avoir, dès l'année prochaine, des recettes beaucoup plus importantes en Champions League et un peu plus importantes pour l'Europa League. Donc, c'est énervant de rater ces marches.
Mais on a l'impression qu'il y a une vraie cassure après le départ de Laurent Blanc. Car quand Laurent Blanc part, derrière, voilà, il prend les rênes de l'équipe de France. Il n'y a plus de Ligue des Champions. Et on se rend compte que pour un club comme Bordeaux, pour attirer des joueurs, en effet, il faut cette Ligue des Champions. Une vraie cassure.
Écoutez, je pense que, alors là, je vais vous corriger parce que la cassure, elle est arrivée un an avant. On a fait une saison catastrophique la dernière saison avec Laurent Blanc. On a été dernier.
Les derniers mois, les cinq derniers mois.
En janvier. La moitié de la saison. On était premier.
Vous avez
en Mercato.
11 points d'avance sur Marseille.
Voilà. Non, mais ça prouve bien que moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que quand on ne met pas de stabilité dans un club, eh ben, il y a des problèmes. Et le départ de Laurent Blanc a été mal vécu. On a fait une saison, Laurent Blanc ne savait pas s'il restait, s'il ne restait pas, etc. Nous, c'était un cauchemar pour nous. Hein. Pour Jean-Louis Triot, je vais vous dire, le patron du club, c'était quand même une grave difficulté. Moi, c'est resté gravé dans ma mémoire. Hein. Ça, je n'oublierai pas que on peut tout perdre sur des questions de carrière, des questions de choix personnel. Et c'est pour ça que moi, je suis très attentif à ce qu'il y ait du suivi, il y ait de la fidélité dans un club, parce que, encore une fois, ça a été un cauchemar. Donc, ça ne date pas du départ de Laurent Blanc. Ça dépend,
c'est plus en coulisses, en fait.
Du milieu de la saison, où là, on a beaucoup perdu. Alors, Laurent Blanc a beaucoup apporté au club, mais c'est vrai que je considère que les conditions de son départ n'ont pas été les bonnes, pour, en tous les cas, pour les intérêts du club des Girondins.
La saison dernière a été une saison difficile. Le début de saison a été difficile. Avez-vous le sentiment d'avoir tourné la page maintenant, la page Laurent Blanc, avec Francis Gillot, qui a l'air d'avoir repris, on va dire, le contrôle de son équipe?
Effectivement, ça a été compliqué. Il y a eu des départs. Hein. Aussi, il ne faut pas le nier. Des garçons comme Chamac, comme Gourcuff, on en a parlé. Mais je pense que c'est d'ailleurs, quand vous regardez, peut-être le départ qui nous a été le plus préjudiciable, c'est Diawara. Il y avait eu un engagement qui avait été pris pour ce joueur, mais je pense que c'était une erreur de l'avoir laissé partir à Marseille.
Vous avez perdu votre charnière, en fait. Enfin, voilà, la colonne vertébrale.
Voilà, je pense que ça a été une erreur. Par contre, les départs de Gourcuff, de Chamac, de Diarra, bon, c'était des bons joueurs, mais je ne crois pas que ça soit ça qui est proposé. Il y a eu un problème psychologique pour cette équipe, qui a eu du mal à s'en remettre. Bon, on a eu des difficultés avec Jean Tigana, et heureusement, Francis Gillot, avec son calme, surtout avec son professionnalisme, vous savez, c'est, même s'il n'est pas forcément exubérant, pour prendre le portrait, C'est un grand professionnel et il a repris cette équipe en mauvais état et il a quand même remonté. Hein. Aujourd'hui, cette saison est quand même meilleure que la saison précédente.
Nicolas de Taverneau est notre invité ce soir, l'administrateur des Girondins de Bordeaux. On parlait de Laurent Blanc et de cet épisode que vous aimeriez gommer de votre mémoire. Aujourd'hui, dans le dossier équipe de France, j'aimerais avoir votre avis sur ce qu'il se passe aujourd'hui entre Laurent Blanc, un sélectionneur qui aimerait prolonger, qui aurait aimé prolonger avant l'Euro, et Noël Le Graët qui veut attendre les résultats de l'équipe de France lors de l'Euro. Quel est votre avis là-dessus? Vous êtes plutôt Noël Le Graët ou plutôt Laurent Blanc?
À moi, mon avis, alors il est simplissime. J'ai beaucoup, encore une fois, de respect pour Laurent Blanc, mais je trouve qu'il est absolument normal que Noël Le Graët ne se précipite pas. Il y a eu tellement d'erreurs qui ont été faites pour la sélection, dans la sélection, pour choisir les sélectionneurs de l'équipe de France, qu'il est normal que... On peut pas avoir ceinture et bretelle tout le temps. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un cap important à passer, c'est l'Euro. Noël Le Graët a dit qu'il réunirait son conseil fédéral pour choisir l'entraîneur après. Moi, je soutiens tout à fait cette position.
Quitte à ce que Laurent Blanc puisse s'engager pour un autre club avant l'Euro.
Mais ça, c'est son sujet. Ça, c'est son sujet. Personne ne lui interdit. Mais si vous voulez, il faut quand même... Moi, j'aime beaucoup Laurent Blanc, mais nous avons demandé à Laurent Blanc de venir. C'est Jean-Louis Triaud qui a eu cette idée, entraîner Bordeaux. C'était un grand pari que le club a pris. Moi, si vous voulez, on peut pas, quelle que soit la qualité des grands professionnels qu'ils sont, on ne peut pas soumettre soit l'avis de l'équipe de France ou de la Fédération française de football, soit l'avis d'un club des Girondins de Bordeaux, à des choix personnels. Je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et moi, je soutiens, en tous les cas, Noël Le Graët dans cette affaire.
Mais c'est assez contradictoire, finalement, avec la politique que vous voulez impulser au club des Girondins. À l'époque de Laurent Blanc, vous vouliez qu'il se positionne assez vite pour travailler sur le long terme. Là, Laurent Blanc voulait se positionner rapidement vis-à-vis de Noël Le Graët pour se positionner sur le long terme, alors que Noël Le Graët prend un risque énorme.
Non, mais ce que je veux dire par là, à partir du moment où Noël Le Graët estime qu'il veut voir les résultats de l'équipe de France, il veut voir si tout ça marche bien, enfin, Noël Le Graët, la fédération, il n'est pas anormal, mais le risque qu'il prend, et ça c'est le jeu, c'est que, comme Nézal disait, c'est que Blanc s'engage sur une autre équipe, mais ça, je veux dire, ça fait partie du risque, et puis la fédération trouvera un autre entraîneur s'il le faut à ce moment-là. Mais je pense que Noël Le Graët gère bien son problème de cette façon.
Revenons un petit peu aux Girondins. Où situez-vous les Girondins dans le paysage français, avec des clubs comme l'OL, l'OM, le PSG qui est en train de devenir très ambitieux, ou même un club comme Montpellier? Oui. Et le LOSC aussi, que j'ai oublié.
Alors, je pense que tous les clubs hors Paris ont un problème économique majeur qui vont les empêcher d'avoir de très grandes équipes dans les années à venir.
Par rapport aux clubs européens,
aux clubs européens, pour des tas de raisons. D'abord parce que l'Allemagne gère beaucoup mieux son affaire que nous, ils ont une politique très astucieuse. Vous avez parlé du Bayern. Le Bayern ne perd pas d'argent. Le Bayern a une politique continue, un très beau stade. Bon, et les Allemands sont les gens sérieux dans le football aujourd'hui. L'Espagne, c'est différent. Il y a deux clubs qui sortent du lot et puis il y a tout le reste.
Et ils sont en déficit la plupart.
Et puis l'Angleterre joue beaucoup avec les mécènes. Bon. En France, on a peu de mécènes. En tous les cas, nous ne sommes pas des mécènes. Donc malheureusement, on ne peut pas avoir des équipes comme Chelsea. Alors je dirais que tous les clubs que vous avez cités se situent dans un mouchoir de poche entre le deuxième et, disons, le sixième ou le septième. Je pense que c'est dans un mouchoir de poche. Alors il y en a qui sont un peu mieux placés que d'autres. C'est Marseille, un potentiel qui est plus important, mais en contrepartie, il y a la nervosité du club.
Potentiel en termes d'image.
Potentiel en termes de recettes, parce qu'ils drainent beaucoup. Non, moi, j'étais samedi soir à Bordeaux. Quand Marseille a marqué un but, heureusement, ils en ont marqué qu'un, en deuxième mi-temps, j'étais surpris, il y avait beaucoup de gens à l'intérieur du stade qui sont levés. Ça prouve qu'il y a des supporters marseillais partout.
Partout en France.
Ce qui n'est pas forcément le cas des autres clubs.
Exactement.
Et donc, ça donne un avantage à Marseille. À l'inverse, quand ils sont en crise, ils le sont vraiment.
Donc la place de Bordeaux, c'est toujours, on va dire, dans les 6-7 plus grands clubs français.
Il faut que nous soyons européens, en Europa League.
Mais en général, vous êtes inquiet pour le football français. Vous déclariez dernièrement, il n'y aura pas des Qataris pour tout le monde. Comment vous voyez le futur? Vous êtes pessimiste?
Je pense que...
J'ai vu par exemple sur les salaires, vous parliez d'indexer les salaires, en tout cas une partie des salaires, sur la performance et sur le résultat.
Aujourd'hui...
C'est ce qui se pratique en Allemagne.
Aujourd'hui, tous les clubs... français vivent au-dessus de leurs moyens. Enfin, tous les grands clubs français vivent au-dessus de leurs moyens. Alors, soit vous trouvez des gens qui l'acceptent en disant « c'est un investissement et je risque de perdre mon investissement ». Ce sont les Qataris avec le PSG. Soit vous avez des clubs qui sont obligés qui ne peuvent pas durablement dépenser plus qu'ils ont. C'est le cas de Marseille, de Lyon, de Lille, de Rennes, de Bordeaux. Et là, vous aurez nécessairement une baisse de la masse salariale des clubs. Ce qui veut dire que, conjugué avec les risques qu'il y a sur la fiscalité, que certainement, il y aura des individualités qui vont partir.
Donc, probablement, en l'indexant sur les résultats et sur la performance.
On va essayer de trouver les moyens. Un, il faut que nos centres de formation marchent mieux. Deux, il faut qu'on trouve des recettes de stade, mais ça va prendre du temps. Et puis trois, il faut essayer de trouver des formules salariales qui soient plus exigeantes sur le plan des résultats.
Le nouveau stade aura un impact sur l'économie du club.
Oui. Mais enfin, malheureusement, il faut 4 ans pour construire, et puis il y a des recours, etc. Mais le nouvel stade permettra, encore une fois, en Allemagne. Nous, on a à peu près les mêmes droits de télé qu'en Allemagne. Mmh. Mais là où on pêche en France, sur le football, pour les recettes de stade, c'est sur les recettes de stade.
Serez-vous propriétaire du stade comme le Bayern est propriétaire de son stade?
Non, mais ça, c'est pas l'élément le plus important. On est concessionnaire exclusif, si j'ose dire, de l'exploitation et de sportive, et de ce point de vue-là, ça va nous profiter.
Dernièrement, dans Sud-Ouest, vous annoncez 15 millions de pertes. Oui. Pour parler de potentiels joueurs en termes de vente, est-ce que, par exemple, vous avez déjà discuté avec Jean-Louis Triaud? Est-ce que vous participez à ces discussions avec Jean-Louis Triaud, pourquoi pas Francis Gillot, sur l'avenir de certains? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un joueur qui a un vrai potentiel pour permettre à Bordeaux de retomber sur ses pieds financièrement, c'est peut-être Benoît Trémoulinas.
Non, mais aujourd'hui, d'abord, c'est pas peut-être avec Francis Gillot, on discute avec Francis Gillot.
Donc vous participez à ces discussions.
Oui, enfin, moi, mon rôle, c'est pas de choisir les joueurs. Hein. Mon rôle, c'est de déterminer un budget, d'avoir des objectifs et essayer de s'y tenir. Après, est-ce que tel ou tel joueur partira ou tel joueur restera? Ça dépend beaucoup de lui, ça dépend beaucoup de nous. Ça, on verra. Mais incontestablement, il y aura des efforts à fournir. Il y a un effectif un peu trop nombreux professionnels à Bordeaux. Il y aura des efforts à fournir pour la saison prochaine.
Donc vous voulez avoir plus de jeunes issus du centre de formation? Ça veut dire être plus performant au niveau du centre de formation?
Écoutez, il y en a déjà beaucoup sur le terrain. Quand vous regardez le terrain, vous avez cité Trémoulinas, mais il y en a beaucoup qui viennent du centre de formation.
Planus.
Donc je pense Planus, alors ça fait partie déjà des plus anciens, si j'ose dire, mais je crois quand même, Sané, etc., il y a des très bons joueurs. Il y a une bonne équipe à Bordeaux. Il y a une bonne équipe à Bordeaux, simplement il y a eu un problème psychologique, ils n'arrivent pas à tenir un résultat. On a eu encore peur là contre Marseille en deuxième mi-temps samedi soir. Mais quand on voit des garçons comme Jussier, c'est quand même des garçons doués. Puis moi, j'ai un petit faible pour Carasso parce que il est arrivé. Et là,
et Plasil aussi.
Et Plasil, c'est le capitaine, donc ça c'est normal. il y a une bonne équipe. Elle sera partiellement renouvelée en saison prochaine, mais il faut rester ambitieux pour Bordeaux.
Nicolas de Taverneau, le président du directeur d'M6, mais également l'administrateur des Girondins de Bordeaux, est notre invité ce soir. Il reste avec nous. On va reparler de l'Euro et pourquoi pas d'M6, puisqu'on va parler de l'équipe de France et de la liste et des problèmes en défense. On est inquiet pour la défense des Bleus, sans oublier dans quelques instants la semaine de Cyprien Signy. Petit tour par la Ligue 2, Bastia accueille Châteauroux ce soir. Bonsoir Philippe Jam.
Bonsoir.
Alors, en cas de victoire, Bastia est en Ligue 1 ou ce ne sera pas encore officiel?
Ça ne sera pas encore officiel parce qu'en cas de victoire, Bastia aurait 15 points d'avance sur Clermont. Il reste 5 matchs, donc Clermont pourrait revenir en cas de 5 défaites de Bastia et en cas de 5 victoires. En plus, le goal average de Bastia est largement supérieur, plus 25 pour Bastia, plus 8 je crois pour Clermont. Donc il faudrait vraiment une catastrophe pour que Bastia ne monte pas. Mais c'est vrai que mathématiquement, Bastia, même s'il gagne ce soir, ne sera pas en Ligue 1.
Pour l'instant 0-0?
Pour l'instant 0-0 avec juste une double occasion pour Châteauroux, mais une double parade du gardien de but Magno Novaes pour Bastia.
On rappelle que c'est le dernier match de la 33e journée de Ligue 2 à suivre en fil rouge tout au long de la soirée sur RTL. Dans un instant, la semaine de Cyprien Signy.
En podcast aussi, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.
Bichente Lissarasso, Sylvain Charlet.
Le Club Lisa sur RTL.
Le Club Lisa.
Nicolas de Taverneau, notre invité dans le Club Lisa. Nicolas, M6 restera toujours fidèle au Girondins de Bordeaux?
Écoutez, on est un peu radin, mais on est fidèle. On a le même président. On a le même président Jean-Louis Triaud depuis qu'on est là. On est là depuis 11 ans, on nous annonce comme partant chaque année, on continuera de soutenir ce club, on s'est engagé dans le financement de ce stade, j'espère qu'on aboutira. En tous les cas, on vit quelques saisons difficiles, mais voilà, on est... Quand je vois la capacité en première mi-temps d'un Bordeaux-Marseille, j'ai souvent des regrets et j'espère qu'on va retrouver le niveau européen rapidement.
Donc la recette, être plus performant sur le centre de formation, recruter malin comme vous l'avez fait avec Aubragnac par exemple cette saison.
Absolument.
Et puis cette politique salariale peut-être l'indexer davantage sur la performance de l'équipe.
Oui, puis attendez, on ne va pas être les seuls à avoir des contraintes. Hein. Je peux vous dire que nos collègues des autres clubs, ils vont avoir des difficultés là qui vont venir. Donc,
mais même le PSG, parce que avec le fair play financier, normalement, ils sont censés avoir autant de recettes que de dépenses.
Et hors antenne, je vous raconterai comment ils peuvent faire. Mais bon,
dites-nous à l'antenne.
Ah, il y a des astuces.
On est là pour ça.
Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'il faudra être malin. Mais je pense qu'aujourd'hui, la contrainte financière peut aussi être un atout en poussant notre centre de formation. Souvent, quand on a eu la Champions League, l'année d'après, on s'est un peu endormi. Et donc, c'est le moment de relever. Et puis, Gilo nous paraît être l'homme de la situation pour la saison prochaine.
Ça, c'est un bon choix.
Merci. Très, très bon choix. Merci beaucoup, Nicolas de Taverneau.
Merci à vous.
À bientôt, à Bordeaux, bientôt. Ou ici d'ailleurs.
Allez, on enchaîne avec la semaine de Cyprien.
La semaine de Cyprien Simi.
Alors, la parole à Monsieur Sini.
Eh bien, cette semaine, chers amis analystes du 4-4-2, sondeur du ballon rond, il n'y avait pas que le Classico, il y avait aussi...
À voter. L'heure de l'ouverture des bureaux de vote.
5 000 bureaux de vote sont ouverts
de la participation présidentielle.
Les Français sont aux urnes cet après-midi.
On a beaucoup voté.
À voter. Et oui, l'élection présidentielle, une élection qui s'est même invitée dans les vestiaires de Ligue 1, comme à Lorient, où c'était carrément « on refait le monde dans les couloirs du moustoir », à en croire l'attaquant des Merlus, Kevin Monet-Paquet.
On en a parlé un peu entre nous dans le vestiaire, et des petits débats animés, chacun défend un peu ses idées et tout. Ça vote à gauche et... Certains à droite aussi.
Ah, débat d'idées, on se dit.
Non, attends, incroyable ce vestiaire.
Ah ouais, on se dit, c'est bien.
Génial.
Des footballeurs citoyens.
Attends, après, on parle politique avant l'entraînement.
Voilà, pendant toute
grandiose,
la semaine.
Grandiose.
Donc, on
se
dit formidable. Puis après, on a quand même demandé à Gourcuff, Mbemba et Monet Paquet, toujours le même, s'ils allaient voter. Et là.
C'est pas sûr. C'est pas quelque chose qui me passionne.
J'ai plus le football en ce moment dans la tête que. Ça n'est, j'ai pas fait la démarche. Non.
Eh ben ouais, en fait, j'ai pas un qui va voter. C'était du bluff. Ouais, bref, okay. En tout cas, je sais pas si
Tu nous as vendu du rêve. Hein.
Bah ouais, mais j'ai cru aussi. Et puis quand j'ai écouté, bah non. Bref, en tout cas, je sais pas si c'est un rapport avec l'élection, mais cette semaine, chez les entraîneurs qui ont gagné, c'était vraiment.
Tu viens de chanter la balade.
Ah ouais, il y avait de la joie, du plaisir après la victoire. Comme à Rennes, par exemple, qui s'impose 1-0 à Brest, avec un Frédéric Antonetti qui respire le bonheur.
Je viens de vous dire que pendant 45 minutes, on a bien maîtrisé. Donc je sais pas, c'est peut-être pas français. Mais bon, j'ai l'habitude avec Rennes qu'on maîtrise. Rien, Brest a maîtrisé, mais on a les 3 points. Bonsoir messieurs.
Il est heureux. Joie de vivre également chez Rémi Garde, à Lyon, après la victoire à Lorient, 3-2.
À votre avis, est-ce que j'ai l'air frais comme un gardon? Je voudrais juste dire que j'ai été aussi affecté de voir Clément Grenier sortir sous les sifflets de Gerland. Je trouve que c'est pas juste. Voilà. Merci.
Heureusement qu'ils ont gagné tous quand même. Et puis pour clore en beauté cette balade des coachs heureux, the last but not least, l'excellent Francis Gillot, l'homme que quand tu l'écoutes après un match, tu peux pas savoir s'il a gagné ou perdu. Comme samedi par exemple, après la victoire face à Marseille.
On voulait faire quelque chose, c'était le jour où... Ou rien, comme on dit. Surtout qu'il y avait un stade plein, il y avait une bonne ambiance, il y avait une bonne équipe en face. C'était le moment de faire un coup.
Il y avait la musique derrière.
Voilà. Je rappelle que Bordeaux a gagné 2-1 quand même, parce que quand on l'écoute, on sait jamais. Bref, la France qui gagne a donc le sourire.
C'est un peu grand corps malade, non? C'est ça?
C'est terrible.
La France qui gagne a donc le sourire. Alors imaginez un petit peu celle qui perd et qui dit défaite. Dit Marseille, et oui, l'OM qui les produit en série, et Didier Deschamps qui cette semaine a peut-être livré le secret de ses défaites en cascade. Écoutez attentivement, ça va très vite.
Moi je suis pas entraîneur pour entraîner.
Eh bah oui, mais pas entraîneur pour entraîner. D'ailleurs les joueurs c'est pareil, visiblement à l'OM, ils sont pas joueurs pour jouer. Hein. Et puis Didier Deschamps dans la descente aux enfers a peut-être atteint son apogée samedi à Bordeaux. Oui, Didier Deschamps, lui le capitaine de France 98, lui le symbole de la gagne. Et aujourd'hui, bah, même Tony Chaperon, qui n'est pas vraiment le Mozart de l'arbitrage, se permet de lui dire qu'il est nul.
Il y a 2 pénaltys, et lorsque je dis à M. Chaperon, quand je reviens dans le tunnel,
qu'il avait oublié de pénalty et qu'il avait été mauvais, et il m'a répondu comme vous.
Eh oui, l'ambiance de cours d'école dans les couloirs de Chambord-Delmas.
Si les arbitres se mettent à chambrer, ça va poser vraiment problème.
Il y avait de la tension, de l'électricité cette semaine en Ligue 1. Heureusement que notre championnat, à l'heure du money time, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous, comme dirait France Gall, il y en a un. Il y a un club imperméable à la pression, un club où même sans attaquant, tu marques 6 buts. C'est... Et oui, le PSG, pas besoin d'attaquant, Paris, ses Champs-Élysées, son budget illimité et son football champagne millésimé. Paris, qui après 33 journées a compris que le football était un sport collectif. Le PSG en met 6 à Sochaux, mais il fallait s'y attendre, car Carlo, samedi en conférence de presse, il avait lâché un...
I feel good, very good.
Hey, I feel good, very good, je me sens bien. Carlo, enfin, en entraîneur heureux et un beau duel PSG-Montpellier
au deuxième
tour.
Ah oui, ça va être bon, ça va
être bon. Et oui, Montpellier qui vire en tête de 2 points selon mes estimations. Et pour ce match-là, pas la peine d'aller voter. C'est que du foot.
Merci Cyprien Cini.
On fait un petit tour par la Ligue 2.
Ouais.
Ça vous dit ?
Allez.
Dernier match de la 33e journée de championnat, Bastia-Châteauroux. Philippe Jam, ça monte en pression.
Et à l'instant, le but, le premier but de Bastier devant un public de 15 000 personnes en transe. Le but de Wabi Kazri, un joli centre de Toifilou Maolida au deuxième poteau. La reprise instantanée de Wabi Kazri. Et après 17 minutes de jeu, eh bien, le Sporting Club de Bastia mène 1-0.
Quand vous écoutez le Club Lisa en podcast, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
Le Club Lisa.
Mira, tu passes à côté de quelque chose. Là, tu loupes. C'est de ce côté qu'il faut regarder.
Le Morito de l'info.
Oye, sa papaya.
Si, señor. Le Morito de l'info.
Et dans ce Morito de l'info, on va parler des bleus. On va prendre la température des bleus. On va recevoir notre expert qui est multicarte, puisque c'est notre expert de l'Angleterre. Et c'est aussi notre expert de l'équipe de France sur certains joueurs qui jouent en Angleterre.
Eh oui,
et c'est Julien Laurence.
Re, monsieur.
Re, good evening. Tu as la pression, là, tu es expert plus fort que Vicente Lisa.
Non, mais ils jouent tous en Angleterre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Attends, là.
Messieurs. Alors, on va faire un petit bilan quand même.
Oui.
Sur la défense des bleus.
Ouais.
Mexès. Qui est sur le banc au Milan AC.
Ah, en tribune même ce week-end.
Ouais, même en tribune ce week-end. Rami qui est en difficulté avec Valence. Sako qui est sur le banc au PSG. Abidal évidemment en convalescence. Il y a Koscielny qui est pas mal avec
Julien. Et, oui. Et puis il nous reste.
Et Kaboul qui est de retour
qui revient de blessure.
Et Varane.
Dans ses là, c'est le. Là, c'est
le. Non, mais dans le ce poulain contexte, Bichène. Non, mais dans ce contexte-là, est-ce que Varane ne peut pas être. Ouf, qu'est-ce que j'ai dit là ? Ne peut pas être une solution.
On va couper au montage.
Non, mais attends, je vais aller plus loin.
Vas-y,
c'est très simple. C'est très simple. Il suffit d'appeler, je l'ai déjà dit, il suffit d'appeler Zinedine Zidane.
Ou Damien Degor,
qui l'a recruté.
Contre,
oui, mais qui est con. Mais écoute, je préférerais écouter l'avis de Zinedine Zidane, qui le voit tous les jours à l'entraînement, qui l'a vu sur quelques matchs du Real. Bien sûr qu'il n'est pas titulaire, mais on est en train de parler du Real. Est-ce que Varane peut être une solution ou pas ? On pose la question à Zidane. S'il dit oui, banco, moi je le crois. S'il dit non, si c'est trop tôt, voilà, c'est réglé.
Moi ça me plairait, mais je sais qu'en Angleterre, on en parlait déjà.
On n'est pas en train de parler d'un titulaire pendant l'Euro, on est en train de parler d'un joueur qui, a priori, selon les dires, serait le défenseur central de demain en équipe
c'est
de France.
C'est Mourinho qui dit
que... Et demain, c'est la Coupe du Monde 2014 et l'Euro 2016.
Avant de réfléchir à emmener le joueur qui va te porter les bouteilles d'eau et te couper les citrons, il faut quand même trouver une défense titulaire dans cette équipe.
Vas-y, qui tu mets aujourd'hui ?
Bon,
aujourd'hui, tu pars avec Rami et Mexès.
Bah oui,
faute de
et
mieux.
Tu les gardes.
Faute de
Mexès,
mieux.
Il est frais, il n'a pas fait un match de la saison, il sera en pleine forme.
Ah, oui. Et derrière, alors normalement...
juste un truc, c'est que genou, c'est 6 mois d'arrêt. Et 6 mois pour revenir au top. Il allait à peu près à 1 an. C'est-à-dire que maintenant, normalement, il devrait retrouver des sensations. Mais on a 2 mois de l'Euro.
Et derrière,
ça peut être injuste.
Et derrière, donc, normalement, tu vas prendre 4 joueurs pour avoir 2 remplaçants pour tes axios. Tu as Sako, Koscielny, Kaboul. Donc, Kaboul revient de blessure. Sako ne joue plus avec le PSG. Et il y a Koscielny, Julien, qui est en train de marquer des points, là. Il enchaîne avec Arsenal.
Ouais, il enchaîne. Et c'est vrai qu'il fait une très bonne saison. Il a été excellent contre Chelsea samedi. 0-0. Il a sauvé d'ailleurs plusieurs fois son équipe, notamment en deuxième période devant Sturridge, et c'est vrai qu'il est en train de monter en puissance. Il a beaucoup mûri par rapport à la saison dernière où il venait d'arriver de Lorient. Il a eu quand même un parcours assez atypique parce qu'il a joué un peu comme Olivier Giroud. Il a joué en National, en Ligue 2, en Ligue 1 à Lorient, et donc après il a fait le grand saut vers Arsenal, la Ligue des Champions, le championnat d'Angleterre, etc. Et c'est vrai qu'il a beaucoup mûri par rapport à l'année dernière. Il fait beaucoup moins d'erreurs défensives, contrairement un peu à la saison dernière où parfois il avait quelques absences. Il a réglé ce souci-là, et puis c'est vrai que c'est un vrai joueur de ballon aussi, comme Laurent Blanc les aime, comme Bichette les aime aussi, et c'est vrai que ça peut vraiment être intéressant pour l'équipe de France.
Mais bon, ça reste très inquiétant quand même. Là, tu te dis aujourd'hui, c'est un vrai casse-tête pour Laurent Blanc.
Ce qui est paradoxal quand même avec cette équipe de France, alors je vais un peu m'égarer du sujet, de l'angle de départ de la défense, mais c'est que...
Tu t'égares toujours, toi.
On a Ribéry et Benzema qui sont au top de leur forme comme rarement. Donc ça, c'est alors qu'à une époque, on savait pas trop Ribéry notamment. Et on était à peu près sûr de la défense. Et là, c'est l'inverse qui se produit.
C'est vrai.
Donc je sais pas comment gérer ce paradoxe. Est-ce que finalement, on s'inquiète pas pour rien au niveau de la défense? Parce que tu peux ne pas être bon en club, mais être bon en équipe de France.
On avait une certitude. C'était la volonté de Laurent Blanc d'aligner Rami et Mexès. Ouais. Ça a toujours été sa priorité depuis le début de son mandat. Mais le problème, c'est que les données aujourd'hui font que tu doutes, parce que Rami, son entraîneur à Valence, dit qu'il est cramé physiquement et psychologiquement, qu'il a besoin de repos. Et Mexès, on le voit, il a enchaîné des erreurs dans des matchs importants et il est aujourd'hui en tribune. Donc c'est là que vient l'inquiétude.
Après, moi, j'ai une question pour Bichent, qui a vécu ces périodes justement de grosses saisons et de préparation pendant une grosse Coupe du Monde, pour une grosse Coupe du Monde. La préparation, c'est quoi? Tu te reposes et tu te requinques, ou tu fais encore plus d'efforts et t'arrives cramé, quoi? Parce que ça peut être très bien pour Rami, s'il est fatigué psychologiquement, nerveusement et physiquement. Là, son entraîneur, il va peut-être pas lui faire jouer tous les matchs. Et il va profiter du stage d'avant l'Euro pour se refaire une santé.
Mais t'as très peu de temps de préparation. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que t'as quasiment pas de temps pour faire une vraie préparation. Donc ça, c'est un paramètre qui est compliqué. Donc tu es sur ton physique de la saison. Et il faut arriver en effet pas trop cramé. Il faut en avoir sous le pied pour l'Euro.
T'as pas de miracle, quoi. T'as non, pas de joueur pas... qui arrive
j'ai,
cramé.
J'ai le souvenir, enfin, la Coupe du Monde 98, par exemple, on a vraiment eu un mois de préparation.
Ouais, c'est énorme.
Voilà. Et vraiment une vraie préparation. Mais là, c'est pas le cas, parce que le calendrier, on a parlé avec Laurent Blanc, la saison s'arrête assez tard et donc l'équipe de France a très peu de temps pour préparer.
Bon, on parlait des certitudes pour la défense de Laurent Blanc, mais il y a deux interrogations, voire deux surprises. Tu parlais de Varane.
Les derniers noms sur la liste de Laurent Blanc.
Et ça nous vient d'Angleterre, parce que t'as des joueurs qui sont en train de marquer des points. Je pense à Ben Arfa. Et il y a un joueur qui revient en circulation. C'est Abou Diaby et dont Laurent Blanc est fan, Julien.
Ouais, grand fan, Laurent Blanc, parmi d'autres bien sûr, mais 25 minutes pour Abou samedi contre Chelsea, c'était la première fois depuis le 3 mars qu'il rejouait avec Arsenal. On a déjà parlé souvent dans l'émission de cette longue traversée du désert pour Abou cette saison avec seulement 3, donc là c'était son 4e match de la saison seulement, et puis il lui reste bien sûr que 3 journées de championnat ici en Angleterre pour récupérer un peu de temps de jeu, pour récupérer un peu de rythme de match, mais c'est vrai qu'il revient peut-être au meilleur moment finalement pour lui là dans le sprint final pour la liste de Laurent Blanc.
Et moi je pense que Ben Arfa pourrait faire de l'ombre à un joueur comme Mathieu Valbuena par exemple, parce que l'OM est au fond du trou. Dans les dernières listes on avait Valbuena et Amal Fitano. Moi je pense qu'à droite Ben Arfa aujourd'hui
Ben Arfa a retrouvé une vraie régularité.
Ouais.
Parce qu'on l'a vu mettre des buts de folie, faire des actions assez incroyables. Mais est-ce qu'il a une vraie régularité aujourd'hui quand il est sur le terrain?
Complètement, Michel, complètement. Autant offensivement, il a été encore d'ailleurs plus ou moins décisif samedi, puisqu'il est à l'origine du premier et du troisième but, tous deux d'ailleurs marqués par Cabaye. Et puis aussi défensivement, c'est-à-dire que par moment, par le passé, il avait souvent des absences, encore une fois, notamment dans son replacement défensif, qui ne sont plus là aujourd'hui. Il travaille défensivement, il se replace, il joue beaucoup plus pour son équipe qu'il a pu le faire auparavant. Et je pense qu'il est vraiment dans cette phase où, s'il n'est pas pris maintenant, je vois pas quand il pourrait vraiment être pris en équipe de France.
Ben Arfa en équipe de France, j'en suis quasiment convaincu.
Bon, Julien, on risque de t'appeler tout à l'heure pour le journal pour l'émission de George Lang pour tes goûts musicaux.
Bon, et la semaine prochaine, on aura un très beau City United, le derby anglais.
Ah oui.
On aura le temps d'en reparler la semaine prochaine.
On va bien chercher des informations là sur ce City United.
Bon, salut Julien.
Ça va nous intéresser.
Merci
Julien. Ciao, ciao. Et d'ailleurs, c'est pas pendant le Club Lisa, c'est pas le lundi?
Et ça si. 21. Non, coup d'envoi 21h.
Ouais, 21h de chez vous. Ouais,
d'accord.
Mais si tu veux, on fait le Club Lisa là-bas. Tiens, ce serait bien en tribune de presse. Après, on commente le match.
Ouais, hein, c'est vrai.
Bon, allez. Bon, salut Julien.
Salut Julien, ciao.
Merci.
On rêve. Allez, on enchaîne. À la Ligue 2, Bastia Châteauroux. On refait un point avec Philippe Jam. Philippe Jam, dernier match de la 33e journée.
Eh oui, et après 26 minutes de jeu dans cette première période, eh bien, ce sont les Bastiais qui mènent 1-0 grâce à un superbe but de Wahbi Khazri à la 17e minute, un centre de Toifino Maïlida, une reprise instantanée de Wahbi Khazri au deuxième poteau et le premier but qui a enflammé le stade, alors qu'un corner va être tiré pour Bastia à la réception, David Suarez, et le ballon qui est dégagé finalement par les Castelroussins, et ce sera donc un dégagement en 6 mètres. Toujours 1-0 pour Bastia.
RTL.
When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the
Le top d'éclat de la semaine.
Cette déclaration légendaire.
D'Éric
Cantona, vous avez compris que c'est le top d'éclat de la semaine. Alors, messieurs.
Le principe, nous avons tous notre petite phrase. Il faut deviner le nom de l'intervenant. Vous pouvez jouer chez vous. Bichente, Cyprien et moi avons notre petite phrase. Qui commence?
Moi, comme d'habitude.
Vas-y, Bichente. Vas-y, patron.
Le Qatar au PSG est une bonne chose, mais pour moi, Leonardo n'incarne rien du tout. Ancelotti, oui, mais Leonardo, non.
Je l'ai pas, celle-là.
Tu l'as pas?
Non.
Moi, je l'ai pas. Tu peux redire?
C'est un ancien président.
Un ancien président.
Bernard Tapie?
Oui.
Ouais. Il a beaucoup parlé.
Bernard
Tapie. Bon, ce tapis. Okay. Il est bon.
Bon. Vas-y, Cyprien, toi.
Alors, les arbitres sont nuls. Il y a un côté anti-Paris qui ressemble à de la jalousie. Attention, Montpellier fait une superbe saison. Si cette équipe est championne, ce sera mérité. Mais sur les petits détails, on siffle surtout contre le PSG.
Tu l'as, toi, ou pas?
Non, je l'ai pas.
C'est un joueur du PSG.
Vas-y, redis.
Les arbitres sont nuls. Il y a un côté anti-Paris qui ressemble à de la jalousie. Ça m'étonne d'ailleurs que ça n'ait pas fait plus de bruit, cette phrase.
Ménèze.
C'est Jérémy Ménez, ouais.
Ah, c'est Ménez. Ouais. Bon. Allez, à mon tour. Elle est facile également, celle-ci. Les joueurs ont une vie de débile. La plupart du temps, on se demande s'ils ne sont pas au niveau du CM2.
Je l'ai lu, ça.
Tu peux avoir un débile dans une équipe, mais tu ne peux pas en avoir 8.
C'est Bernard Tapie.
Oui, exactement.
Donc, il sous-entend qu'il faut de l'intelligence dans une équipe.
Mais je pense qu'il a tout à fait raison.
Oui,
avec ses mots, avec ses mots, mais
oui. Est-ce qu'il a raison? Il y avait deux déclarations de Tapie quand même.
Je confirme, il faut un peu d'intelligence.
J'ai trouvé les deux.
Gros score.
Un peu beaucoup même.
Et toujours au top, hein, Cyprien, sur le top des classes.
Je lis la presse, messieurs.
C'est l'heure de conclure avec le Les Zapping.
Le Les Zapping. Sur RTL.
Alors, ce Les Zapping, je voulais le consacrer à Messi et au Barça.
Ah.
Parce que tout le monde est en train d'enterrer.
Attention, tu
Messi.
Vas relancer le débat là autour de la table.
Tout le monde est en train d'enterrer Messi et le Barça.
Ah non, tu vas un peu vite là.
Si. Après la victoire
doutent,
du Real, tout le monde est en train de les enterrer. Donc maintenant, c'est le moment des paris. C'est le moment des paris. C'est le moment
de. Tu fais un raccourci là.
Mais non, mais si, je trouve. J'ai l'impression que après la victoire du Real, ça y est, c'est terminé. C'est la fin
de foot.
Messi, ça fait deux matchs qu'il est pas bien. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais je pense que l'histoire n'est pas terminée pour le Barça. Je pense qu'ils ont un vrai problème de fragilité, je te le disais, en défense, qu'ils vont pouvoir régler, à mon avis, assez facilement en rejouant à 4 derrière. Et après, ils ont un problème de finition. Parce qu'après, au milieu de terrain, dans la circulation, ça pose pas de problème. Ils ont un problème de finition. Et ça, c'est une histoire de confiance. Et je pense qu'à partir du moment aussi où Messi retrouvera, on va dire, sa fougue habituelle, et que des mecs comme Sanchez ou des mecs comme Pedro retrouveront l'efficacité dans le but, cette équipe du Barça peut redevenir à nouveau très dure à battre.
Ça doit
donc,
faire plaisir
donc
en ce moment.
L'histoire n'est pas terminée.
Ça
non, mais c'est bien.
Plaisir à
mais
Cyprien
c'est bien.
En ce moment.
C'est
non,
bien
mais...
parce que ça les oblige, avant une éventuelle finale de Ligue des Champions, de se remettre en question sur qu'est-ce qui ne va pas dans notre modèle qui a marché pendant 4 ans.
Ça tient à tellement peu de choses. Moi, je me rappelle encore la frappe sur la barre d'Alexis Sanchez face à Chelsea.
Si, ça se joue à si peu.
Voilà,
Bah oui, ça se joue à peu.
Il y a un petit souci. Il y a un petit souci de fraîcheur aussi, mais d'ici. Alors, évidemment, il va falloir battre ou éliminer Chelsea, mais d'ici la finale de la Ligue des Champions, ils auront le temps de se requinquer. Le
Moi, ça me rassure ce qui se passe avec le Barça.
Bon, très
ils
bien.
Ils sont
messieurs.
Humains, enfin.
Retour du club Lisa avec invité la semaine prochaine. On attend notre invité de lundi prochain. Hein, si vous avez
tu
un invité. Oui, on attend des confirmations. On a lancé des pistes, comme on dit dans le milieu. On reviendra jeudi pour le club Lisa prolongation. Je vous rappelle que
vous pouvez télécharger les émissions aussi sur le podcast d'RTL. Okay.
Et laissez tout au message pour le club Lisa prolongation de jeudi sur le compte Twitter @leclubLisa, la page Facebook RTL Foot ou le blog www.rtl.fr.
Bastia Châteauroux, c'est 1-0. La demi-heure de jeu, c'est à suivre tout au long de la soirée sur RTL.
En podcast comme à la radio, vous écoutez RTL.
Vous écoutez RTL.